Nous allons donc passer, sans plus attendre, à la communication de ce jour. Bien, combien de fois avons-nous lu ou entendu des justiciables, des professionnels du droit, des politiques de tous bords, critiquer le droit du travail ? Ces innombrables textes légaux, réglementaires ou conventionnels, la taille démesurée prise au fil du temps par le Code du travail, devenu de plus en plus gros, seul le Code de procédure pénale peut rivaliser, intransportable et plus encore, au dire de beaucoup, indigeste. Combien de fois avons-nous entendu critiquer telle ou telle jurisprudence de la Chambre sociale, de la Cour de cassation, dont les décisions peuvent avoir un impact majeur sur le fonctionnement des entreprises. Il m'a dès lors semblé qu'il était important de vous permettre de mieux connaître, peut-être, ce contentieux, à la fois technique et tellement humain. Mieux connaître les difficultés que rencontrent les juges, leur sujet de satisfaction, l'évolution de ce contentieux qui fait que, peut-être, le titre de justice débordé que j'avais retenu il y a plusieurs mois n'est plus tout à fait adapté. Jean-Guy Huglot vous parlera d'ailleurs des métamorphoses du droit du travail, ce que, je l'avoue, je n'avais absolument pas réalisé. Il est donc, en tout cas, particulièrement bien placé pour nous parler de tout cela. Pourquoi est-il bien placé ? Parce qu'une large partie de sa vie professionnelle a été consacrée au droit du travail, dont il est un spécialiste incontesté. Successivement substitut au parquet de Lille, magistrat à la chancellerie, conseiller référendaire à la Cour de l'Union européenne à Luxembourg, conseiller référendaire à la Chambre sociale de la Cour de cassation, président de chambre à la Cour d'appel de Douai, enfin conseiller, puis doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il est, indépendamment de ses fonctions proprement juridictionnelles, consulté fréquemment, appelé à participer ou à déposer devant des commissions diverses. Il publie, oui, le droit du travail, c'est son domaine. Et nous le remercions d'avoir pris sur son temps de doyen, le doyen dans une chambre aussi importante que la chambre sociale qui, sauf erreur de ma part, comporte 4 sections, c'est bien cela, un rôle de coordination, de mémoire, d'animation aux côtés du président de la chambre. C'est donc celui ou celle qui sait, qui accompagne, qui aide et qui veille à ce que la jurisprudence de la chambre reste autant que possible stable. C'est la sécurité juridique qui est en jeu, vous le savez bien. Donc, ayons conscience en ce début d'après-midi qu'il s'agit d'un secteur du droit peut-être un peu aride. Il faudra donc, pour certaines et certains d'entre nous, peut-être pas pour les lycéens qui sont déjà tout à fait au fait de tout cela, mais il faudra donc s'accrocher un peu. C'est une raison de plus pour tenter de mieux cerner ce droit et Jean-Guy Huglot va nous aider à y parvenir. Alors, si vous le voulez bien, plongeons avec lui dans la vie du travail, c'est-à-dire la nôtre, en réalité, celle de nos compatriotes. Vous avez la parole, Jean-Guy Huglot. Nous vous écoutons avec intérêt.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les académiciens, mesdames et messieurs, l'honneur qui m'est fait de venir aujourd'hui m'exprimer devant vous, dont je mesure l'ampleur, est néanmoins, je le confesse, légèrement teinté d'une nuance de perplexité, puisque si j'en juge le titre choisi de cette intervention « Regard sur une justice débordée », je suis conduit à devoir vous entretenir aujourd'hui d'un débordement. Alors, si ce terme évoque les 50 filles du roi Danaos condamnées à remplir sans fin un tonneau troué, il me semble néanmoins, ainsi que je me propose de vous le montrer, que le tonneau de la justice sociale est un peu moins troué que par le passé. Or, à cet égard, la structure d'un contentieux juridictionnel et son évolution dans le temps ne sont que l'écume des aspects spécifiques de la matière juridique en cause et de son éventuelle transmutation. Brosser un état de la justice sociale sans expliciter les principes essentiels de la matière et s'agissant justement du droit du travail, sa notable et récente évolution serait comme présenter une vierge à l'enfant à des spectateurs ignorant tout du christianisme. Le droit du travail témoigne en effet depuis une quinzaine d'années d'une double métamorphose. D'une part, depuis les réformes législatives de grande ampleur qui se sont succédées depuis l'année 2013, avec ces doubles sommets qu'ont été la loi travail de 2016. Je rappelle, la loi travail, c'est 80 décrets d'application, 20 dates différentes d'entrée en vigueur, 200 pages sur Légifrance. Et ensuite, les 5 ordonnances du 22 septembre 2017, qu'on désigne souvent sous le nom du président de la République, le législateur a fait le choix de privilégier désormais la détermination de la norme du droit du travail au plus près du terrain, c'est-à-dire par voie de négociation collective, entreprise par entreprise, en renvoyant au droit négocié au lieu du droit que nous connaissions jusqu'ici, déterminé par le Parlement ou par le pouvoir réglementaire. Donc c'est une véritable dévolution qui a été faite de la détermination de la norme en droit du travail aux partenaires sociaux dans les entreprises, c'est-à-dire d'un côté les organisations syndicales représentatives et bien sûr de l'autre côté l'employeur. Alors cette dévolution éloigne encore plus le droit du travail d'autres matières du droit qui sont caractérisées par un légicentrisme affirmé, je pense évidemment au droit pénal, puisque en droit pénal, tout est de nature législative, tant l'incrimination que l'échelle des sanctions. Par contraste, s'agissant du droit du travail, le juge doit se confronter, indépendamment des normes législatives et réglementaires qui subsistent néanmoins, à l'amplitude inconfortable du droit négocié, puisque cela va de l'accord national interprofessionnel négocié au niveau national par des organisations syndicales représentatives à ce niveau, aux conventions collectives et aux accords de branche par grande branche professionnelle, c'est-à-dire par grand secteur d'activité, aux accords de groupe pour les entreprises qui font partie d'un groupe, aux accords d'entreprise et évidemment pour les entreprises qui sont divisées en établissements distincts, le cas échéant, aux accords d'établissement. Cette préférence marquée par le législateur pour le droit négocié ne concerne pas seulement la détermination de la norme collective, mais également la question de la rupture du contrat de travail, puisqu'à partir de 2006, la rupture conventionnelle a fait irruption dans le droit du travail français, donc une rupture négociée et acceptée par le salarié et par l'employeur, et qui a connu un succès incontestable. Je vais y revenir lorsque j'évoquerai l'évolution du contentieux. Également, l'on peut observer le recours au droit négocié de manière plus collective en ce qui concerne les licenciements pour motifs économiques, puisque la loi de sécurisation de l'emploi de 2013 a permis et encouragé l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi par voie d'accord collectif négocié entre les organisations syndicales et l'employeur. Avant 2013, on observait seulement 5% de plans de sauvegarde de l'emploi adoptés par voie d'accord collectif. Aujourd'hui, c'est la moitié des plans de sauvegarde de l'emploi qui sont adoptés par voie d'accord collectif. Alors, le second trait incontestable de la métamorphose du droit du travail réside dans l'irruption du contrôle de conventionnalité et surtout du droit européen. J'ai, dans ma communication écrite, fait allusion à la célèbre métaphore de Lord Denning, selon lequel le droit de l'Union européenne est une marée qui s'empare de tout et désormais les parties du droit du travail français qui échappent au droit de l'Union européenne ne sont plus que des terres isolées dont il n'est pas certain qu'on puisse encore les considérer comme formant un archipel. Donc je vous donne un certain nombre d'exemples de directives de l'Union européenne. Nous avons des directives sur le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, sur les droits des salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, sur les licenciements économiques collectifs, sur l'information-consultation des travailleurs, c'est-à-dire toute la question des institutions représentatives du personnel, sur la santé et la sécurité des travailleurs au travail, sur les discriminations en raison du sexe, de la race, de l'origine ethnique, de l'âge, des convictions religieuses, de l'orientation sexuelle, du handicap, sur la protection de la femme enceinte, des directives sur le congé parental, sur le contrat de travail à durée déterminée et sur le contrat de travail à temps partiel, ces trois dernières directives d'ailleurs, n'étant que la reprise d'un accord cadre au niveau européen qui a été négocié et signé par les grandes organisations syndicales et patronales européennes. Indépendamment même du droit de l'Union européenne, la France est le deuxième État au monde en ce qui concerne le nombre de conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées, le premier étant l'Espagne, dont ces conventions de l'Organisation internationale du travail sont évidemment fréquemment invoquées devant la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et indépendamment même de l'Organisation internationale du travail, il nous arrive parfois de devoir appliquer des conventions des Nations unies hors Organisation internationale du travail. Nous l'avons fait récemment concernant la Convention de New York sur les droits des personnes handicapées et nous l'avions fait en 2019 s'agissant de la Convention relative aux droits de l'enfant dans une matière d'esclavage domestique. Évidemment, nous n'aurions garde d'oublier la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence, je qualifierais, d'exigeante de la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous avons aussi la Charte sociale européenne, qui est cet instrument qui vient du Conseil de l'Europe, mais, comme j'y reviendrai, la Chambre sociale et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation lui ont dénié tout effet direct, ce qui amoindrit un peu, évidemment, l'influence de cette Charte sociale européenne. Alors, la multiplicité des normes supérieures de droit applicables en droit du travail et leur potentialité de remise en cause des normes nationales contribue ainsi à une complexité incontestablement accrue des questions soumises aux juridictions prud'homales et, in fine, à la Cour de cassation. Il ne vous aura pas échappé que cette double évolution du droit social a pour effet de disséminer les sources du droit à partir de ce pôle central qu'est le législateur, tant vers les degrés inférieurs, c'est-à-dire la négociation collective, que vers les degrés supérieurs, c'est-à-dire toutes les normes supérieures de droit. Donc, je voudrais en premier lieu identifier les conséquences de cette évolution sur le contentieux prud'homal et, en second lieu, plus spécifiquement, je voudrais vous exposer les enseignements que la Cour de cassation, en tant que Cour suprême, en a tirés pour repenser son rôle de Cour suprême. Alors, d'abord, l'état présent de la justice sociale. Je vous rassure, je ne vais pas vous détailler toutes les statistiques que j'ai énoncées dans ma communication écrite. J'ai croisé à la fois les statistiques du ministère de la Justice, qui paraissent tous les ans au mois d'octobre, tout contentieux confondu, plus le rapport du Sénat qui s'appelle « La justice prud'homale au milieu du gué », plus un rapport de la Cour des comptes de juin 2023 spécifiquement sur les juridictions prud'homales. Et le dernier élément extrêmement intéressant, c'est un rapport de Madame Evelyne Cerverin, directrice de recherche émérite au CNRS, qui a été chargée par le ministère de la Justice de faire une étude sur le contentieux prud'homal, étude qu'elle a remise au mois de mai 2024, qui est donc tout à fait récente. Alors, je voudrais juste oralement faire saillir les grands traits de ce qu'on peut observer quant à l'évolution du contentieux. Alors, en 2005, il y avait en moyenne tous les ans 200 000 saisines de conseils de prud'homme par an en France. À partir de 2017, ce chiffre est tombé à 100 000, c'est-à-dire une division par moitié. Évidemment, ça n'est pas dû au barème des indemnités prud'homales, puisque le barème est entré en vigueur seulement pour les licenciements prononcés à compter du 23 septembre 2017. C'est dû à la rupture conventionnelle qui est entrée en vigueur en 2010. Aujourd'hui, on est toujours autour de 100 000 saisines par an des conseils de prud'homme. On observe un taux d'appel qui, tous les ans, tourne autour de 60%. Alors évidemment, quand on le compare au taux d'appel des anciens tribunaux de grande instance, qui était de 21%, des tribunaux d'instance, qui était de 5,7%, et des tribunaux de commerce, qui est de 14%, aujourd'hui, le taux d'appel, toute matière confondue, des tribunaux judiciaires est autour de 17%. On est toujours à un taux d'appel des décisions des conseils de prud'hommes au minimum de 60%. Par ailleurs, le délai moyen de traitement a beaucoup augmenté. C'est le paradoxe que relève la Cour des comptes, à savoir que le nombre de dossiers a considérablement baissé, mais le délai moyen a considérablement augmenté, puisque le délai devant les conseils de prud'hommes en 2022 est de 16,3 mois, alors qu'en 2009, il était de 9,9 mois. Et par ailleurs, les délais devant les chambres sociales de cour d'appel sont en moyenne de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans, et c'est beaucoup plus élevé que les délais pour l'ensemble des autres affaires civiles devant les autres chambres civiles qui s'établit à 13,5 mois. Ce qu'on note aussi, qui est très intéressant, c'est que sur ces 100 000 saisines de conseils de prud'hommes par des salariés, il n'y en a que 223 qui concernent des salariés dits protégés, c'est-à-dire des représentants syndicaux et des représentants du personnel. Donc une infime minorité. Et par ailleurs, on observe aussi que sur l'ensemble de ce contentieux, les licenciements pour motifs économiques individuels représentent désormais seulement 1,5% des litiges, ce qui est un effondrement par rapport à la situation qu'on avait connue avant la loi sécurisation de l'emploi de 2013. Alors, que tirer de cette aridité primitive des chiffres ? Le premier enseignement que l'on peut en tirer, c'est le succès incontestable de la rupture conventionnelle. Je rappelle, la rupture conventionnelle permet aux salariés de percevoir l'indemnisation du chômage. Donc, évidemment, c'est pour lui très intéressant. Et en contrepartie, pour l'employeur, c'est un facteur de sécurité juridique, puisque le salarié ne peut plus saisir le conseil de prud'homme de contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement. Et la chambre sociale de la Cour de cassation a entendu donner toute sa chance à la rupture conventionnelle, parce que quand on regarde la circulaire du ministère du Travail, il avait dit qu'une rupture conventionnelle ne pouvait pas être signée par une femme enceinte, ne pouvait pas être signée par un salarié victime d'un accident du travail, ne pouvait pas être signée par un salarié victime de discrimination ou de harcèlement moral. Et en fait, nous avons dit exactement le contraire dans notre jurisprudence, ce qui fait que même une femme enceinte, handicapée, victime de harcèlement moral et avec un accident du travail, peut, si elle le souhaite, évidemment, signer une rupture conventionnelle. La seule façon que nous avons admise de remettre en cause une rupture conventionnelle signée, c'est le vice du consentement. Non, évidemment, on ne pouvait pas écarter le vice du consentement, puisqu'il résulte des textes fondamentaux du droit des contrats du Code civil. Mais la charge de la preuve de l'existence d'un vice du consentement pèse sur le salarié. Or, quand on regarde le nombre de ruptures conventionnelles en 2022, plus de 500 000 ruptures conventionnelles ont été signées, à comparer avec le nombre de licenciements qui est de 624 000 aujourd'hui. Évidemment, ça représente une masse considérable de ruptures qui remplace à peu près 85% des licenciements et pour le reste, vraisemblablement, des démissions. Le deuxième enseignement, donc, comme je l'ai souligné, c'est la quasi-disparition de la contestation du licenciement pour motif économique. En fait, ce que l'on observe, c'est que la loi sécurisation de l'emploi, qui a prévu l'intervention de l'administration du travail ab initio pour homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi et pour vérifier si le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des mesures d'accompagnement et des mesures de reclassement suffisamment généreuse eu égard aux capacités financières de l'entreprise, bien entendu, ou du groupe de sociétés auquel elle appartient. Et le cas échéant, l'administration peut refuser d'homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi. On observe qu'une fois que le plan de sauvegarde de l'emploi a été homologué et que l'éventuel litige porté devant les juridictions administratives est terminé, les salariés ne saisissent absolument pas le tribunal judiciaire pour contester leur licenciement pour motif économique individuel qui est pris en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi, en sachant que la seule chose qui reste dans la compétence du judiciaire et qu'ils pourraient contester devant le juge judiciaire, c'est l'existence même d'un motif économique. Or, l'expérience que j'ai, puisque j'ai connu quand j'étais président de la chambre sociale de la Cour d'appel de 10 ans, de Douai pendant 10 ans, les licenciements économiques, en général, le motif économique, il est incontestable. C'est-à-dire, les difficultés économiques, elles existent nécessairement. Dans le passé, les licenciements pour motif économique étaient déclarés sans cause sérieuse sur l'obligation de reclassement, avec, il faut bien le reconnaître, une jurisprudence particulièrement exigeante de la Cour de cassation à l'époque, et qui faisait que bon nombre de licenciements pour motif économique étaient déclarés sans cause sérieuse. Alors aujourd'hui, ce contentieux a quasiment disparu, ce qui évidemment explique aussi une baisse générale du contentieux. Alors le troisième enseignement que je peux en tirer, c'est le caractère rarissime des saisines effectuées par des salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif, 200 000 en 2022 par rapport à 98 000 saisines par des salariés de droit commun. C'est qui montre finalement que, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là, le dialogue social à l'intérieur des entreprises françaises n'est pas si mal en point que ça. Et quand je regarde les statistiques de la DARES, qui est la direction des statistiques du ministère du Travail, 50 000 accords collectifs d'entreprises ont été signés en 2022. En 2018, c'était seulement 41 000. Alors, le quatrième enseignement que j'en tire, c'est que malgré une rumeur tenace, il n'y a pas, semble-t-il, d'effet du barème des indemnités prud'homales sur le volume du contentieux, c'est-à-dire qu'avant comme après, le volume est à peu près stable. En revanche, ce que change incontestablement le barème des indemnités prud'homales, c'est la structure du contentieux, c'est-à-dire que les salariés de salaires modestes et de peu d'ancienneté sont évidemment dissuadés de saisir le Conseil des prud'hommes lorsqu'on leur apprend la modestie des indemnités pour licenciement sans cause sérieuse qu'ils seront susceptibles d'obtenir pour le cas où la juridiction déclarera le licenciement sans cause sérieuse. En revanche, on assiste, pour d'autres raisons, à une augmentation considérable des saisines par les salariés cadres. Et ça, c'est ce que Mme Cervera, directrice de recherche et mérite du CNRS, a identifié. Elle le qualifie de gentrification du contentieux prud'homal. Par exemple, en 2012, il n'y avait que 6 conseils des prud'hommes sur les 209 que compte la République française, pour lesquels les affaires d'encadrement représentaient plus du tiers des dossiers. Aujourd'hui, en 2022, c'est 33 conseils de prud'hommes pour lesquels la section encadrement représente plus du tiers des dossiers. Si un cadre aujourd'hui saisit le conseil de prud'homme de Nanterre, qui a la particularité d'avoir dans sa compétence la défense, avec évidemment un très grand nombre de sièges sociaux d'entreprise, la section encadrement va lui donner une date d'audience pour dans 4 ans. Nous en sommes là. Voilà. Alors, et c'est ce qui explique aussi la difficulté accrue des dossiers. Pour la raison très simple, c'est que les cadres ne font pas appel aux mêmes avocats que les salariés de rang modeste. Évidemment, ils font appel à des avocats talentueux, très connus dans la ville concernée, et ces avocats peuvent demander un montant d'honoraires élevé, ce qui explique le contrôle de conventionnalité, qui évidemment est soulevé dans presque tous les dossiers, et des questions juridiques extrêmement complexes qui sont portées désormais devant le juge prud'homal. Alors, la dernière observation, c'est le taux d'appel, qui, lui, n'a pas varié. Alors, j'ai eu la curiosité de franchir cette rivière redoutable qui est le Quiévrain pour aller voir comment ça se passait en Belgique. En me disant qu'après tout, la société belge a des caractéristiques économiques et sociales, voire culturelles, assez proches de la société française. Et donc, en regardant les statistiques qui sont sur Internet du service public fédéral de la justice, j'ai découvert qu'en Belgique, qui connaît un système d'échevinage, c'est-à-dire qu'en première instance, il y a un juge professionnel et 2 juges non professionnels. Et c'est la même chose en cour d'appel. En fait, le dossier ne va pas devant une cour d'appel, il va devant ce qu'ils appellent une cour du travail, qui fonctionne aussi avec un système d'échevinage, donc avec un magistrat professionnel et des magistrats non professionnels, mais la décision est rédigée par le magistrat professionnel. Et donc, en Belgique, l'on peut remarquer en droit du travail un taux moyen d'appel de 10%. Alors, sans doute, évidemment, ce taux d'appel vient de ce que nous sommes le dernier État d'Europe à ne pas avoir de magistrat professionnel en première instance en droit du travail, que le droit du travail s'est considérablement juridicisé et qu'il est devenu d'une très grande complexité. Il suffit de voir le nombre de revues juridiques qui existent en droit du travail et qui n'existaient pas il y a 30 ans. Évidemment, les conseillers prud'hommes sont des hommes et des femmes qui ont à cœur d'assumer leurs fonctions, mais c'est extrêmement compliqué. Lorsque l'on voit les exemples d'appréciation juridique extrêmement subtils et extrêmement complexes que tant la Cour de justice que la Cour européenne des droits de l'homme demandent aux juges nationaux de faire. Par ailleurs, la rédaction de la décision judiciaire participe de façon importante à l'acceptation de celle-ci par les justiciables concernés. L'exemple belge démontre assez que la rédaction de la décision par un magistrat professionnel suscite chez les parties un sentiment plus fort d'avoir été jugé. Et donc j'ai eu l'idée de comparer le nombre de saisines prud'homales en France et en Belgique par rapport à la population active de France et de Belgique. Et c'est très intéressant parce que j'ai découvert que ce qu'on pourrait appeler un taux de conflictualité des relations de travail, ce taux en France est de 0,15%, alors qu'en Belgique, il est beaucoup plus élevé, il est de 0,30%. Pourquoi ? Parce que la Belgique ignore le système de la rupture conventionnelle. Et donc, il est assez clair que si l'on avait, comme au printemps, il semblait en avoir été question, supprimé la rupture conventionnelle, ça aurait produit une augmentation absolument considérable du nombre de saisines des juridictions prud'homales. Alors, j'ai fait une allusion dans ma communication écrite à la question fondamentale, qu'est-ce qui fait l'acceptation de la décision de justice ? C'est une grave question auquel on ne réfléchit pas toujours. Depuis 1215 et le concile de Latran où l'ordalie a été abandonnée, donc ça n'est plus Dieu qui rend la justice, par quoi on remplace ? Et on observe que dans les pays anglo-saxons, on a remplacé par le jury, qui est quelque chose d'absolument fondamental dans les pays anglo-saxons, et le jury, c'est en fait une évolution assez restreinte par rapport aux plaides des tribus germaniques qui rassemblaient tous les guerriers germaniques. Et donc, nous avons ce jury, ils sont 12, ce qui est un chiffre symbolique extrêmement important, et qui représente symboliquement la communauté. Nous, dans les pays de droit continental, c'est très inspiré par l'enquête canonique diligentée par la papauté dès l'origine, pour trancher le litige en général entre l'évêque et le monastère. Et donc, ce qui fait l'autorité de la décision de justice, c'est l'enquête et la recherche de la vérité par un inquisiteur ou un magistrat professionnel aujourd'hui. Or, j'observe que, à la différence de ce qui existe dans d'autres matières du droit, le Conseil des prud'hommes composé de deux conseillers prud'hommes représentant les salariés et deux conseillers prud'hommes représentant des employeurs s'apparente plus au premier modèle, et ce qui explique peut-être la difficulté que nous avons quant à la place de cette juridiction en France. Alors, évidemment, en cet état, la justice sociale ne serait pas complète si je n'évoquais pas la situation de la Chambre sociale, de la Cour de cassation elle-même, dont pendant de très nombreuses années, nous avions à peu près 6 000 pourvois par an. Ce chiffre a beaucoup baissé à partir de 2017 et on est aujourd'hui autour de 4 000 pourvois par an pour la seule chambre sociale, bien entendu. Le taux de pourvoi est passé de 20% en 2014 à 15% en 2018 et 13% en 2021. Alors, comment expliquer cette baisse du nombre de pourvois devant la chambre sociale ? Je l'explique par l'abandon par la Chambre sociale depuis 2014-2016 d'un certain nombre de contrôles de fait, à commencer par le contrôle du harcèlement moral, dans une moindre mesure le contrôle de la notion de faute grave et du bien fondé de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail. Je l'explique aussi par le fait que la Chambre sociale, la jurisprudence de la Chambre sociale connaît désormais une remarquable stabilité, ce qui est absolument nouveau, parce que depuis 2018, nous adoptons la même règle orale mais implicite qui existe au Conseil d'État, à savoir qu'un revirement de jurisprudence doit être adopté par une formation d'un rang supérieur à celle qui a adopté la jurisprudence en cause, ce qui fait que les revirements de jurisprudence doivent nécessairement passer devant la plénière de chambre de la chambre sociale, avec votre serviteur comme doyen. Et comme j'ai été élevé à la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne revire jamais de jurisprudence, si l'on n'a pas un motif péremptoire pour obtenir un revirement de jurisprudence, en général c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui nous oblige à nuancer notre jurisprudence ou à la mettre en conformité, ou une décision du Conseil constitutionnel, désormais, tous les conseillers rapporteurs savent qu'il est quasiment impossible d'obtenir un revirement de jurisprudence. Alors, ceci m'amène évidemment à la seconde partie, je serai beaucoup plus rapide, je vous le rassure, de mon intervention sur la façon dont la Chambre sociale a repensé son rôle. Alors, tout système politique repose sur un équilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Dans les systèmes où le pouvoir politique est extrêmement faible, et on a un exemple dans le passé qui est le Saint-Empire romain germanique, le juge est extrêmement puissant. Il semble que le tribunal du Saint-Empire romain germanique avait une très grande importance et on ne peut pas complètement exclure que le comportement de la Cour constitutionnelle allemande est un peu un héritage de cette période flamboyante du tribunal du Saint-Empire romain germanique. Même chose pour l'Union européenne, c'était peut-être beaucoup plus vrai dans les années 80, lorsque les normes étaient difficiles à être adoptées dans l'Union européenne, tout le monde sait que la Cour de justice de l'Union européenne avait une importance absolument considérable. Donc, c'était également la situation de la Chambre sociale dans les décennies 1990-2000, sous un doyen prédécesseur bien connu, où la Chambre sociale a adopté, en effet, des jurisprudences extrêmement allantes, avec une orientation très aisément discernable. Aujourd'hui, la situation est profondément différente puisque le pouvoir politique a repris la main et, comme je l'ai dit, est intervenu de 2013 à 2018 avec une grande loi modifiant le Code du travail. La doctrine parle de la réforme la plus importante du droit du travail depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, la Cour de cassation a conscience qu'il lui faut respecter son rôle constitutionnel. Ce n'est pas à elle qu'il appartient de définir le droit du travail dont la société française a besoin pour les prochaines années, mais au Parlement. Et donc, je pense que le droit a sa propre épaisseur. Il n'est pas un voile plus ou moins transparent dont on revêtirait les rapports de force politique et idéologique au sein d'une société. C'est son principe de cohérence et de non-contradiction qui lui procure cette épaisseur et cette légitimité à résoudre de façon impartiale et acceptée les inévitables conflits qui traversent toute société humaine. Il est important pour la Cour de cassation de conserver une neutralité absolue et de fuir les raisonnements juridiques hasardeux ou capillotractés qui laisseront penser, à juste titre, qu'elle est sortie de son rôle. C'est ainsi que, par une série d'arrêts du 11 mai 2022, la Chambre sociale, malgré une pression considérable d'une grande partie du monde du droit, a reconnu la conventionnalité du barème des indemnités prud'homales, alors que les arguments pour nous conduire à en écarter l'application ont été vraiment extrêmement nombreux. C'est ainsi également que l'état d'esprit de la réforme ambitieuse des ordonnances du 22 septembre 2017 n'a pas été remis en cause par la Chambre sociale, même si nous avons évidemment apporté quelques précisions en ce qui concerne certains textes. Alors évidemment, je n'aurai garde de passer sous silence les arrêts rendus le 13 septembre 2023 en matière de congés payés des salariés en arrêt maladie, puisque ces arrêts ont suscité un émoi considérable. Mais je rappelle simplement que l'incompatibilité du droit français des congés payés avec le droit de l'Union européenne était connue depuis 2012, que depuis 2013, la Cour de cassation, dans son rapport annuel, dans la partie proposition de réforme législative, ne cessait pas de rappeler qu'il fallait mettre le droit français des congés payés en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice, qu'en 2018, lorsque la Cour de justice a reconnu L'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit au repos, nous avons modifié notre rapport annuel pour rajouter un paragraphe en disant que cette réforme était d'autant plus nécessaire que la Cour de justice avait reconnu la possibilité pour un justiciable d'invoquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne directement devant un juge national pour voir écarter l'application de deux articles du Code du travail en matière de congés payés qui sont d'application quotidienne. Donc, nous avions prévenu tout le monde. Nous avons été saisis de la question uniquement en 2023. Donc, je rappelle que la Cour de cassation ne fait pas de politique. Elle répond aux pourvois qui lui sont présentés et elle répond aux moyens rédigés par les avocats au Conseil qui lui sont également suggérés. On aurait pu parfaitement rendre ces arrêts en 2019. Il a fallu attendre 5 ans pour que nous soyons saisis de la question. De toute façon, désormais, les choses sont réglées puisque, après avis de l'Assemblée générale du Conseil d'État qui a recommandé au gouvernement de mettre en conformité le droit français des congés payés et ce, d'ailleurs, de manière rétroactive au 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la loi du 22 avril 2024 a procédé à cette adaptation et cette mise en conformité de notre droit interne. Alors, ce retrait relatif et cette prudence ne rendent toutefois pas complètement compte de l'évolution du rôle de la Cour. En effet, il me semble que la Chambre sociale doit aussi prendre en compte cette dévolution du soin de déterminer la norme du travail qui a été faite aux partenaires sociaux. Et on ne peut pas avoir la même attitude que lorsqu'on applique du droit législatif ou réglementaire. Il serait quand même paradoxal que, tandis que le législateur transfère du Parlement aux partenaires sociaux de l'entreprise le soin de définir la norme, le juge vienne in fine en disant « mais finalement, on va faire ce que je préférerais qu'on fasse ». Et donc, ça signifie que nous ne devons plus, devant la multiplicité des accords collectifs, nous ne pouvons plus avoir une conception réglementaire du droit du travail. Et on ne peut plus s'attacher au contenu même et au résultat même de la négociation. Il faut s'attacher aux conditions de la négociation. La seule négociation a été loyale. Qui a pu négocier? Et il faut avoir une conception du droit du travail qui s'apparente du coup beaucoup plus à celle du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire en termes d'objectifs à atteindre de manière beaucoup plus téléologique, en disant aux partenaires sociaux, voilà, il faut respecter tel et tel grand principe, mais après, la manière dont vous arrivez au résultat, ça, nous n'avons pas à la remettre en cause. Évidemment, il demeure des bornes intangibles aux marges de détermination de la norme dévolue aux partenaires sociaux. L'accord collectif doit respecter la légalité, notamment en matière de discrimination, bien entendu. Alors, pour conclure, l'histoire accélère, ça, on s'en rend compte tous les jours. Le ministère du Travail estime que 65% des emplois qui existeront dans une quinzaine d'années n'existent pas encore. Il est probable qu'à l'avenir, les travailleurs connaîtront plusieurs statuts au cours de leur vie professionnelle, successivement, voire simultanément, comme ils connaissent déjà plusieurs employeurs. L'irruption du phénomène récent des travailleurs de plateforme nous conduira sans doute à devoir réfléchir au droit du travail du travailleur non salarié. Ça, c'est une question évidemment très délicate. Les nouvelles technologies estompent la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. La Cour de cassation, elle, le constate tous les jours. Et donc, c'est avec une particulière prudence et une modestie acceptée que la Chambre sociale de la Cour de cassation doit concevoir son office de Cour suprême chargé de pacifier les tensions essentielles qui traversent le monde du travail. Je vous remercie.
Bon, j'avais, en vous présentant de manière extrêmement pudique, indiqué que je m'étais quelque peu trompé en parlant de justice débordée. Donc, elle n'est apparemment plus débordée, mais les délais de jugement restent quand même encore relativement longs. Ça, c'était sur le fond. En vous remerciant pour tout ce que vous venez de nous dire, une fresque du droit social à l'heure actuelle avec l'irruption de la conventionnalité à des degrés multiples et également l'irruption plus que jamais des normes supérieures dont vous nous avez donné une énumération qui, je l'ai vu, faisait frémir votre voisin de gauche. en la forme, merci, parce que vous avez parfaitement tenu le délai que l'on vous avait demandé de respecter.